no, yo. On pourrait presque apercevoir des petites truites.
Depuis le pont.
Depuis le pont. En sachant qu'elles sont hyper sauvages ici. Hein. Comme la plupart des truites, mais bon. Faut vraiment avancer, masquer, pas faire de bruit quand tu pêches, si tu veux espérer en attraper, puis tout au moins en voir, quoi. Donc voilà, regarde, tu vois, c'est magnifique, magnifique rivière. C'est un super milieu pour la truite ici. Très très riche en poissons, cette rivière. Et des fois, t'arrives, tu sais, fin de journée, juin-juillet, mai-juin-juillet, après des bonnes journées de chaleur, là t'assistes à des spectacles grandioses, tu sais, des éclosions d'éphémères ou de tricoptères, c'est des balais comme ça, aériens, au-dessus de l'eau, à la tombée de la nuit, c'est magnifique. Voilà, c'est en ça que tu vois aussi la richesse d'une rivière, dans le sens où elle est pleine de vie. Regarde aujourd'hui, là, regarde, tu vois, regarde les petits insectes ailés là-bas. Les petites éclosions de la journée, ça, tu vois. Moi, j'ai grandi avec un ancrage à Saint-Nazaire-le-Désert, donc déjà les pieds dans les rivières et les ruisseaux. Ben là-bas, c'est la vallée de la Roanne, avec des rivières qui se jettent, hein, tu vois, la Brette, la Courance, l'Oslon, la Lance, et puis des tas de petits ruisseaux qui s'y jettent. T'as pas une rivière qui est identique à une autre, je trouve. Chaque eau a son odeur, sa couleur, sa viscosité ou pas. Les pierres sont toutes différentes, l'exposition est différente, tu vois. Rien que sur le bassin de la Roanne, tu prends les quatre grosses rivières, donc la Roanne et les trois plus petites qui s'y jettent, c'est trois milieux complètement différents. Voilà. Et là, l'Archiane, donc il y a un peu plus haut, on est vraiment dans le cœur du Diwa, c'est la truite diwaise. Et au pied du Vercors, donc tu vois que c'est encore autre chose, quoi. Avec des cailloux pleins de mousse, comme ça, c'est très très joli. Un condensé de bonheur quand tu remontes cette rivière. L'eau, tu vois, la rivière, c'est des moments de recueillement. T'es en osmose complètement, tu vois, t'as le bruit de l'eau, t'as pas d'autre bruit que l'eau. Vraiment, tu te déconnectes complètement, quoi, tu vois. Premier contact avec la rivière, bah c'est déjà gamin, mais tu vas te baigner dans l'eau, tu vas te rafraîchir. Hein, donc, tu vois, déjà, c'est le premier plaisir que tu prends avec l'eau. Bah après, tu es attiré parce que dans ta famille, bah, y a des pêcheurs. Donc, qu'est-ce que tu fais? On t'emmène à la pêche, donc tu découvres la joie de pêcher. Premier rapport avec la rivière, c'est un peu comme... ont pu faire les êtres humains il y a des milliers et des milliers d'années, c'est-à-dire que tu vas commencer par sentir ce que c'est qu'une rivière, mettre tes mains sous les cailloux, voir ce qu'il y a dessous, tu vois. Là que tu sens tes premières truites, puis là vraiment on t'explique bon, que c'est interdit de les attraper à la main, donc il faut apprendre à les pêcher à la canne. Donc tout petit, tu te mets à pêcher la truite à la canne. Moi quand j'étais gamin, donc moi j'ai 53 ans, 10-15, quand j'avais 10-15 ans, on avait encore un rideau de neige, un rideau blanc sur Angèle, la montagne qui est en haut du bassin de la Roanne, tu vois, jusqu'à mi-mai, sans problème. Donc cette neige qui fondait, elle alimentait la Roanne, donc on avait des hauteurs d'eau et une population halieutique qui était autrement plus nombreuse, plus forte que ce qu'on a aujourd'hui. Ça a eu un autre effet, les grosses crues de 93 aussi, elles ont eu un effet de laminement des berges, ça a ravagé des berges qui avaient été travaillées avec harmonie, hein, tu vois, par la nature, et là ça a tout ravagé. Donc quand on dit que les berges sont ravagées, c'est l'habitat d'une rivière que tu ravages aussi. Et une crue qui te balaye tout, et ben c'est aussi un substrat ben, qui est emmené par la crue. Et ce substrat, c'est hyper important pour que le lit de la rivière se maintienne et pour que toute la chaîne alimentaire, tu vois, du petit insecte aquatique que tu vas trouver, tu vois, sous les pierres, Bah tiens, regarde, on va soulever 3-4 pierres et puis on va voir ce qu'il y a.
Tu veux ?
Par exemple. Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Regarde, tu vois ? Pim, pim. Tu vois ces petites bestioles là ? Des toutes petites larves d'éphémères, ça, mais c'est minuscule. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler ben, vraiment le début de la chaîne alimentaire pour les truites. Si on n'a pas ça dans les rivières, c'est compliqué. On dirait des petites écrevisses, les trucs, tu vois. Et ça, ben, t'en as des milliers dans l'eau, et ça, quand elles se mettent à éclore, alors, il faut que les conditions soient bien, hein. Pression atmosphérique, un petit coup de chaud, etc., etc. Et bien là, tu as des milliers d'éclosions au-dessus de l'eau, et là, ben, les truites, elles sont hystériques. Hein. C'est le moment où le garde-manger est ouvert, et là, tu les vois. Tu découvres une activité dans des rivières que tu pourrais fréquenter 10 fois sans rien voir dans l'eau, et quand tu tombes ce moment-là, dans l'eau, au moment où tu as ces éclosions fantastiques, là tu découvres une vie incroyable dans la rivière, avec tous les poissons dehors en train de sauter, de bouffer, c'est incroyable, incroyable. Voilà, mais tu vois, entre cailloux, c'est des petits cailloux, donc imagine voilà, la richesse de cette rivière. Tu vois. Après, l'expérience fait que la connaissance de l'eau, connaissance des poissons, mais la connaissance de l'eau fait que on a une lecture de l'eau, on appelle ça la lecture de l'eau. Par exemple, regarde, si on regarde devant nous là, je pourrais te dire, ben voilà, tu vois, l'endroit le plus profond, il doit se situer par là-bas. Les postes de chasse, parce qu'une truite, quand tu sais comment elle fonctionne, quand tu comprends comment fonctionne une truite, tu comprends où elle peut se poster après coup dans une veine d'eau. Déjà dans son mode d'alimentation, son mode de consommation, ben il va évoluer au fil de la saison. Ça dépend de la hauteur d'eau, de la température, puis du moment dans l'année. Est-ce qu'elles sont en train de se reproduire? Est-ce qu'elles ont pondu? Elles vont faire le plein d'énergie avant l'hiver, parce que dans l'hiver, tu as de moins en moins d'aliments. Donc c'est tout ça. Et donc tu peux te dire, ben, s'il y a une jolie truite, elle devrait logiquement se trouver par là-bas. Tu vois, le poste de chasse idéal, d'après moi, ça va être là, là ou là. Parce que tu vois, tu as un petit tourbillon, la truite, elle est posée, elle va voir ce qui va passer devant elle dans la veine d'eau. Ça peut être des petits insectes qui dérivent, etc., etc. Donc tu vois, quand tu comprends tout ça, ben après tu as ce qu'on appelle la lecture de l'eau en tant que pêcheur. On parle de bouleversement climatique, mais le milieu de la rivière, c'est très impacté également, notamment par les sécheresses qu'on a, qui sont de plus en plus dures. Ben, c'était il y a quelques années, moi, mon fils, il était jeune, il devait avoir 12-13 ans, donc du coup, c'était une grosse sécheresse, tu vois. Bon, un peu de partout, mais donc nous, à Saint-Nazaire, on avait récupéré des jeunes, nos enfants, des copains à nos gamins, on avait pris des petites épuisettes, des grosses bassines, et on avait remonté les petites rivières où il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus que des flaques d'eau. On avait sauvé pas loin de 550 petites truitelettes, et puis même des plus grosses, hein, des poissons de 20-25, qui étaient emprisonnés dans des flaques d'eau, et puis à 5-6 jours près, c'était cuit, quoi. Je me rappelle, on avait fait ça pendant l'été. Donc c'est là où l'intervention humaine, eh ben, tu vois, elle est intéressante aussi. C'est ça qu'il faut comprendre dans le pêcheur, c'est que ça a à la fois ce côté un peu prédateur, tu vois, c'est une activité de chasse, hein, la pêche. Hein, mais donc le regard a changé, a considérablement évolué ces dernières années, mais c'est aussi le pêcheur, c'est le premier défenseur du milieu. Je veux dire, tu peux pas te dire pêcheur si tu penses pas préserver ton milieu. La pêche, elle est de plus en plus régulée parce que les milieux sont de plus en plus fragiles. Moins d'eau, moins de précipitations, plus de sécheresse. Sans compter toutes les pollutions chimiques hein, qui peuvent intervenir de partout sur le territoire. Alors ici, beaucoup moins qu'ailleurs, hein, tu vois. Nous, localement, dans la communication qu'on a avec nos adhérents, puis avec les jeunes, hein, parce qu'aujourd'hui, le renouvellement, on a des tas de jeunes pêcheurs, notamment sur Saint-Nazaire-le-Désert. Et ben voilà, vraiment, on promeut auprès d'eux ben, la pêche sans ardillon. On les invite vraiment à prélever, mais à ne rien prélever dans la rivière, de manière à ce que les populations puissent se régénérer de manière la plus naturelle qui soit. Moi, plus j'avance dans l'âge, moins j'en garde quasiment plus. Je suis plus dans une connexion spirituelle à la rivière, plutôt que dans un... Comment dire que, voilà, qu'à consommer du poisson, du gibier, parce que c'est ça finalement aussi. C'est à ce côté-là de la pêche où t'as des gens qui gardent absolument tout.
Est-ce que t'as des souvenirs, à part la fois où t'as pêché une truite d'un kilo d'œufs, est-ce que t'as des souvenirs de jours de pêche que tu auras envie de raconter?
Première fois où j'ai vu un castor dans la vallée, alors ça c'était rigolo. Je devais avoir moins de 20 ans. Je remontais la Rouanne, je pêchais. J'étais devant un gros gours, une grosse étendue d'eau, un gros trou, tu vois, sur 15 mètres. Et là, je vois passer un truc comme ça, mais qui traverse latéralement le gours. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne pouvait pas être une branche de bois, tu sais, qui traversait comme ça. Et là, j'ai complètement halluciné. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte après coup que c'était un castor. Mais moi, je vois à la surface de l'eau... Je vois deux petites narines comme ça, puis avec le contre-jour, le truc était à 15 mètres, j'ai cru que c'était un petit alligator. Et j'étais au bord de l'eau, je te jure, j'avais la canne à pêche. Je me suis dit, mais t'es dingue, ça peut pas être un crocodile. Oui, c'est pas possible. J'observe le machin, le truc, il fait des allers-retours comme ça. Et là, il se redresse un peu, il donne un coup de queue, et là, je réalise que c'est un castor. C'était la première fois que j'en voyais. Et on n'entendait pas parler de castor à cette époque-là dans la Rouanne. Et puis, très rapidement derrière, tout le monde s'est mis à en voir. Donc, ouais, c'était une anecdote rigolote où j'ai cru voir un alligator dans la Rouanne.